Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, au Café Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Justin Esso Kobania, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour, écoutez l'invité.
On vous écoute, Justin.
Ok, bon, moi j'ai découvert cette question. La
oui.
Première est de savoir si le rhumatisme est héréditaire ou pas. Et la seconde est de savoir si on peut réellement être guéri de quoi du rhumatisme. Puisque j'ai mon grand-père qui souffre du rhumatisme, et souvent il a prendre les endorphines de l'air, ça suffit seulement les douleurs. C'est ça.
Merci, Justin. Docteur Mbouy.
Oui, pour notre auditeur d'Ombojimaï,
oui.
Il a demandé si la douleur ressentie par le rhumatisant est de même type que la douleur ressentie par
un
drépanocytaire.
Oui.
Voilà, brièvement, nous classons les douleurs ressenties en rhumatisme en 4 catégories. Il y a le rhumatisme, il y a la douleur de type mécanique, c'est-à-dire que la douleur provoquée par la mise en contrainte, donc par l'effort. Vous, quand vous utilisez les genoux pour monter les escaliers, vous avez des douleurs, ça c'est une douleur de type mécanique.
Mmh.
Il y a la douleur de type inflammatoire, ça c'est une douleur qui peut surgir brusquement, brutalement. La nuit, par exemple, vous dormez, vous vous réveillez parce que vous avez mal au dos. Hein, ça c'est la douleur de type inflammatoire. Et elle s'accompagne souvent le matin d'une raideur. Quand vous vous levez, il est difficile de vous redresser parce que la colonne vertébrale est raide.
Oui.
Vous avez aussi la douleur de type neurogène. C'est une douleur que vous ressentez le long du trajet d'un nerf. Prenons par exemple la fameuse sciatique. C'est une douleur qui part du bas du dos vers le membre inférieur jusqu'au niveau du pied. Donc, une douleur qui suit le trajet du nerf sciatique. Ça, c'est la douleur de type. Mais il y a aussi une douleur qui est bizarre, que l'on appelle la douleur de type psychique, qui arrive surtout chez les femmes. Et elles ne savent pas décrire exactement ce qu'elles ressentent. Elles vous disent qu'elles ont des douleurs depuis toujours, qu'elles ont des douleurs à tout moment, ce sont des douleurs qui ne disparaissent pas avec le traitement qu'on utilise la plupart du temps. Donc, une douleur difficile à classer.
Oui.
Ah, ça, c'est la douleur de type psychique. Donc, ces 4 douleurs que l'on voit en rhumatologie peuvent aussi se retrouver chez le drépanocytaire. Mais il y a une particularité chez le drépanocytaire. La douleur chez le drépanocytaire est due au fait que les artères qui amènent du sang vers certains tissus sont bouchés par l'accumulation de globules rouges qui sont déformés. Donc, c'est une douleur due à l'ischémie, donc à la privation d'un territoire donné de son sang.
Oui.
Il peut être localisé soit au niveau du thorax, soit au niveau d'un membre, surtout au niveau des membres inférieurs. Et c'est assez typique quand ça arrive chez la personne qui souffre de drépanocytose. Hein, on sait dire, voilà, ça c'est une douleur qui est très localisée et qui peut s'accompagner d'un œdème et d'une douleur très, 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 très localisée. Ça c'est dans la drépanocytose.
Donc c'est différent, donc ces douleurs ne sont pas les mêmes. Hein.
Ne sont pas les mêmes.
Et il n'y a pas un même traitement pour les deux. Hein.
Non, le traitement peut être le même pour la douleur. Hein. On donne des antidouleurs dans les deux cas.
Mmh.
Mais dans le rhumatisme, si c'est une douleur de type inflammatoire, on préfère y ajouter un agent anti-inflammatoire, donc des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou même des anti-inflammatoires stéroïdiens comme les corticoïdes, ce qui n'est pas le cas dans la drépanocytose.
Justin de Bounia vous pose la question.
Alors, notre ami de Bounia demande si le rhumatisme peut être héréditaire.
Oui.
Oui, il y a certaines formes de rhumatisme qui sont héréditaires. Hein, il y a par exemple, si on prend une maladie donnée qui intéresse la colonne vertébrale, comme la spondylarthrite ankylosante, c'est un nom barbare, très long, donc qui intéresse la colonne vertébrale, qui devient raide, hein, ça arrive surtout chez les hommes. On s'est rendu compte qu'il y avait un facteur génétique dans la famille, le fameux HLA-B27. Il y a aussi, on peut trouver aussi certains stigmates de rhumatisme dans les familles des gens qui font les maladies qu'on appelle les maladies auto-immunes. C'est une maladie dont on n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui, qui intéresse surtout les femmes, qui est due au fait que les femmes, pour des raisons multiples, d'autres connues, d'autres non connues, peuvent développer des anticorps contre leur propre constituant, ce qui est bizarre. Dieu nous a créés avec un corps qui nous donne une certaine identité. Mmh. Vous avez votre identité, moi j'ai la mienne. Mmh. Vous ne pouvez pas prendre votre œil et me le greffer, je vais réagir. C'est même que vous ne pouvez même pas recevoir les yeux de vos propres parents, parce que vous n'êtes pas identique à vos propres parents. Donc chacun de nous a une certaine identité.
Mmh.
Et il arrive qu'à un moment donné, nous ne reconnaissons plus cette identité et nous développons des anticorps contre nos propres constituants. Dans ce cas-là, nous nous détruisons nous-mêmes et cette maladie auto-immune se caractérise surtout par des douleurs au niveau de tous les organes du corps, y compris les articulations.
Alors, Justin de Bouna a encore posé une autre question. Il demande si on peut guérir du rhumatisme.
Oui, il y a des rhumatismes qui peuvent guérir. Faisons par exemple le rhumatisme qui arrive chez les goutteux. Hein, des gens qui ont la goutte, qui est une maladie métabolique, surtout chez les personnes obèses, les personnes qui mangent beaucoup, qui ont beaucoup d'argent. Ben, ces personnes-là développent la maladie qu'on appelle la goutte. Cette maladie, si elle est bien traitée, elle peut guérir.
Voilà.
De même que certains rhumatismes infectieux, hein, vous avez attrapé le gonocoque à Matongé, on vous soigne avec des antibiotiques, ce rhumatisme peut guérir totalement.
Voilà. Victor Mikobi nous appelle des Kananga, et puis Olivier Kabongo est en ligne depuis la ville des Kananga aussi. Voilà, vous voulez également participer, composez le 081-800-63-94.
Réponse à vos réactions, questions ou suggestions avec l'invité de Papy Charlie.
Rhumatisme chronique, quelle est la cause et comment se fait la prise en charge? On en parle avec Dr Mbouyi, rhumatologue au clinique universitaire de Kinshasa. Victor Mikobi, bonjour, vous êtes à Kananga.
Oui, bonjour. Moi, je suis heureux de demander ma participation. Je demandais à l'invité de pouvoir me donner la différence juste entre une polyarthrite rhumatisme et une polyarthrite ankylosante sur le plan clinique. Et quelle sera la conduite à tenir entre les deux? Alors, personnellement, comment tu trouves cette condition? Bon, c'est un remarque auprès de plusieurs personnes au village. Qui se sont souffrés des problèmes de rhumatisme, de rhumatisme. Alors, personnellement, sur le plan clinique, je ne sais pas comment je peux différencier une polyarthrite ankylosante à une polyarthrite plus optimale à une polyarthrite ankylosante. Alors, et notre invité nous dit que c'est voilà.
Oui, Victor, vous avez utilisé des termes techniques. Alors, si vous pouvez préciser, vous parlez de la différence entre une polyarthrite ankylosante, si je veux bien dire.
Une polyarthrite rhumatique et une spondylarthrite ankylosante.
Voilà.
J'ai compris la question de M. Mikobi.
Oui.
Polyarthrite, en rhumatologie, quand nous parlons de polyarthrite, c'est une atteinte inflammatoire de plusieurs articulations,
okay.
De plus de 3 articulations.
Mm-hmm.
Vous avez des douleurs au niveau des mains, des genoux, des chevilles, des pieds, ça c'est une polyarthrite. C'est un terme qui veut dire tout simplement qu'il y a plusieurs articulations qui sont atteintes. Contrairement à l'autre terme qui est utilisé qui s'appelle monoarthrite, c'est-à-dire que vous avez une seule articulation atteinte, ou oligoarthrite, vous avez 2 ou 3 articulations atteintes. Polyarthrite, ça veut dire plus de 4 articulations atteintes, tout simplement. Alors que la spondylarthrite, c'est beaucoup plus spécifique. Le spondylos, ça veut dire la colonne vertébrale. Spondylarthrite, ça veut dire la tête des articulations de la colonne vertébrale, tout simplement.
Alors, il demande, il veut savoir la différence entre, entre ces, ces deux notions-là.
Oui, ces deux notions, c'est d'abord sur la localisation. Spondylarthrite ankylosante. Comme le mot l'indique, ça veut dire que vous avez des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, mais ces douleurs qui enraidissent la colonne, donc qui rendent la colonne raide. La colonne, vous savez que c'est une sorte de tige qui relie notre tête à notre bassin, et cette tige est très souple, très déformable dans l'espace. Alors que dans la spondylarthrite ankylosante, cette tige reste raide. La personne adopte l'attitude que le rhumatologue qualifie avec beaucoup de gentillesse de l'attitude de Lazare sortant du tombeau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Lazare sortant du tombeau, le Lazare qui était le frère de ma Marie-Madeleine, je crois.
Oui,
oui. Donc là, qui sortait du tombeau, avait la tête penchée vers l'avant et sa colonne était raide. Un peu la raideur cadavérique.
Voilà.
Ah, ça, c'est la spondylarthrite. Alors que la polyarthrite, c'est tout simplement des douleurs.
Oui.
Si vous avez, par exemple, des douleurs au niveau de deux genoux, au niveau de deux chevilles, au niveau de deux coudes, vous avez la polyarthrite. C'est la différence. Donc, l'axe central, ça se traduit par une spondylarthrite, alors que la périphérie, c'est par une polyarthrite.
Voilà. Olivier Tabongo est en ligne, est également à Kananga. Bonjour.
Si je dis bonjour, docteur.
On vous écoute, Olivier.
Ah oui, j'ai des préoccupations. La première est de savoir pourquoi on dit souvent que le rhumatisme lèche les os et il mord le cœur. Ça, c'est la première. Et la deuxième, quelles peuvent être les complications du rhumatisme? Merci.
Merci. Docteur Mbouy.
Ok. Bah, c'est un petit adage qu'on utilise souvent, que les professeurs aiment bien utiliser.
Mm-hmm.
Quand ils veulent faire le gros dos dans les auditoires, ils disent que le rhumatisme lèche les os et mord le cœur.
Oui.
Ça veut dire tout simplement que le rhumatisme dont j'ai parlé tantôt, le rhumatisme réactionnel, qui est provoqué par l'angine. Hein, donc, vous avez l'angine à streptocoque. Ce type de rhumatisme peut laisser des séquelles, au niveau des articulations, au niveau du cœur. Les gens qui ont fait l'angine à streptocoque peuvent présenter une polyarthrite, ok, ça c'est lécher les articulations, et peuvent présenter aussi une endocardite ou une valvulopathie, c'est-à-dire qu'ils vont détruire les valvules au niveau du cœur. Si vous avez des enfants qui ont des problèmes de souffle au niveau du cœur, de destruction de valvules, donc qui sont les portes qui s'ouvrent, qui se ferment entre les oreillettes et les ventricules, vous avez donc ces valvules qui sont détruites, qui peuvent être détruites tout simplement par le rhumatisme. Hein, c'est pour ça qu'on dit que le rhumatisme peut à la fois atteindre les os, et atteindre le cœur dans le rhumatisme articulaire aigu.
Voilà, il demande s'il y a des complications qui peuvent survenir.
L'une des complications dont je viens d'en parler, c'est que le rhumatisme articulaire aigu peut abîmer le cœur. C'est une conséquence. OK?
Oui.
Si on considère les conséquences sur l'articulation elle-même, le rhumatisme infectieux mal traité peut détruire complètement l'articulation et vous devenez un handicapé. Et certains rhumatismes mal traités ou non traités, par exemple, vous avez une arthrose au niveau de la hanche et elle a été mal traitée, hein, vous pouvez arriver à la dislocation totale de l'articulation, donc l'articulation est complètement détruite, ou bien l'articulation peut devenir soudée totalement, vous ne savez plus bouger. Hein, ça, ce sont des conséquences sur, c'est surtout l'handicap fonctionnel. Le fait que vous ne savez plus faire ce que vous faisiez avant.
Oui, alors, docteur Mbouy, comment se présentent les chiffres, les statistiques de la maladie en RDC?
Oui, écoutez, je vous donne, on n'a pas encore les statistiques totales en RDC, mais il y a quelques études parcellaires qui ont été faites. Il y a des études hospitalières. Si nous prenons les cliniques universitaires, par exemple, dans le département de médecine interne, Le rhumatisme constitue environ 15% des malades consultés. C'est un gros pourcentage par rapport à ce qu'on connaissait il y a une vingtaine d'années. Ce n'est pas que les rhumatologues ont créé le rhumatisme, mais les gens se rendent compte que les rhumatologues peuvent s'occuper d'eux parce qu'ils ont besoin aussi de trouver des spécialistes dans ce domaine-là. Donc 15% de toutes les consultations de médecine interne pour la rhumatologie, c'est beaucoup. Parmi ces rhumatismes, le plus fréquent, ce sont les rhumatismes dégénératifs. Donc l'arthrose dont j'ai parlé, les rhumatismes qui surviennent surtout avec le vieillissement de l'organisme.
Oui. Constant Gongou nous appelle de Lumbashi, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Cassis.
On vous écoute Constant.
Donc, je voulais poser une question. Est-ce que l'hématisme peut être héréditaire à un âge quelconque? Parce que j'ai déjà vécu un cas dans une famille là où les gens arrivent à l'âge des trentaines des années et trois ou quatre personnes ont déjà atteint le même âge. Est-ce que ça peut être héréditaire avec un âge précis?
Merci, Dr. Mbouy.
Oui, on a parlé de l'hérédité tantôt à propos du patient de Kananga, je crois, un certain Kabongo.
Oui.
Monsieur Mbongo de Lubumbashi demande la même chose. Il y a des rhumatismes qui peuvent être héréditaires, mais qui ne sont pas, que l'on ne voit pas à la naissance. Hein, qui ne sont pas congénitales, on ne le voit pas à la naissance. C'est le cas, par exemple, de la goutte. La goutte, c'est une maladie métabolique qui est due au déficit du métabolisme des purines, mais cette maladie n'apparaît pas à la naissance, mais apparaît plus tard, à l'âge adulte, à partir de 30-40 ans. C'est ainsi que si vous êtes dans une famille, si vous avez 7 garçons dans une famille, hein, qui sont âgés de plus de 30 ans, ils peuvent voir survenir presque au même moment cette crise de goutte. La goutte ayant un certain caractère héréditaire, donc ces personnes vont présenter leur goutte presque au même moment. Mmh. Ça, c'est le rhumatisme qui peut apparaître avec l'âge, comme le rhumatisme dégénératif, l'arthrose, peut apparaître, n'est-ce pas, avec l'âge à partir de 50, 60 ans. Vous pouvez avoir les mêmes personnes dans une même famille qui vont présenter un certain type de rhumatisme.
Docteur Mbouy, quels sont les moyens de prévention du rhumatisme?
Oui, les moyens de prévention dépendent de quel type de rhumatisme. Prenons le cas de rhumatisme dégénératif. On peut dire d'emblée qu'il est difficile de prévenir le vieillissement. Nous vieillissons tous, hein, vous savez, si vous avez des cheveux blancs, vous mettez du yombo, ça ne va pas vous rajeunir, ça va tout simplement couvrir les cheveux blancs.
Oui.
Mais on peut, pour éviter certains types de rhumatisme, si vous avez un surpoids, donc, si vous avez un excédent pondéral, hein, le poids peut aggraver certains types de rhumatisme comme l'arthrose. Donc, en maintenant son poids idéal, vous pouvez, n'est-ce pas, éviter certains types de rhumatisme. Le rhumatisme infectieux, bah, évitez d'aller à Matongé où vous allez attraper des gonocoques. Mmh. Hein, ça, c'est très simple. OK?
Mmh.
Oui, quand vous avez un rhumatisme inflammatoire, allez vite voir le médecin. Il peut être un interniste, il peut être le rhumatologue qui va venir en aide. Il y en a qui passent beaucoup de temps chez les faux médecins, les tradis praticiens, chez les gens qui leur font des qualifications, qui disent qu'il y a du sang noir. Il y a un auditeur qui a parlé du sang noir, là.
Mmh.
Bah, le sang veineux est noir, hein. Ça, c'est connu depuis des millénaires.
Mmh.
Hein, le sang terrible rouge. Donc, quand vous taillardez la peau quelque part, vous faites des scarifications, qu'il y a du sang noir qui sort, ça ne veut pas dire que ce sang noir est un sang normal. Chacun de nous a un sang noir dans ses veines. Et quand le sang s'oxyde aussi, il peut devenir plus ou moins foncé. Donc, ce sont des choses connues depuis très longtemps. Hein, nous ne devons pas toujours être des gens qui nous faisons de recours à des choses anciennes
qui étaient dues à
notre ignorance.
Oui. Hein? Oui. Voilà, merci à Dr. Mbouy, rhumatologue au King, investisseur de Kinshasa. Merci et à la prochaine.
Ok, merci bien.